France Culture.
France Culture. Le souffle de la pensée. Géraldine Mosna-Savoie.
Et vous, quel est le livre qui vous a marqué? Celui qui agit encore tel une révélation. Philosophe, sociologue et scientifique aussi ont ce livre, cet auteur qui continue à les hanter et qui a insufflé leurs pensées. Chaque semaine, l'un d'entre eux vient nous en parler et aujourd'hui, notre invité, historien, a choisi d'évoquer ce qui est peut-être le pire souvenir de ma terminale ou en tout cas le meilleur hors-sujet de toute ma scolarité, un texte posthume de Denis Diderot, court, fait de dialogues, de discours et d'interrogations. Une réflexion sur la rencontre entre Européens et Tahitiens, mieux sur le choc entre les Lumières et l'altérité culturelle. Des années après le bac, quelle joie d'en découdre à nouveau avec ce texte, le supplément au voyage de Bougainville.
Ce Bougainville, homme de grand talent, était mathématicien, avocat, escrimeur d'élite, excellent danseur, mousquetaire du roi et héros de guerre décoré par Louis XV.
Oui, figurez-vous que la marquise m'a dit que...
Ah, vous semblez vous ennuyer, jeune homme. Avez-vous déjà entendu parler de la Terre Australis Incognita?
Oui, le grand continent du Sud. Existe-t-il vraiment?
À vous de répondre, monsieur de Bougainville.
Venez, il paraît qu'une frégate vient d'être construite à Nantes.
Ah.
Le duc de Choiseul, le ministre, est un ami. Il va me la confier. Bienvenue à bord. Où est monsieur Commerson, notre naturaliste? Il n'est pas avec vous?
Il se prépare, il ne devrait pas tarder. Bougainville était un homme de talent et de savoir dont Diderot a dit...
Il est parti pour cette expédition avec toutes ses qualités. Philosophie, courage, vivacité et science aussi.
Enfin, nous sommes dans l'océan Pacifique. Allons-nous y trouver cette nouvelle terre dont on parle depuis si longtemps? Regardez, c'est incroyable.
Oh.
Ils sont comme des enfants, sans aucune mauvaise intention.
Des hommes naturels épargnés par la civilisation. Au Tahiti.
C'est le nom de cette île, c'est bien ça.
Au Tahiti.
Bonjour Antoine Lilti.
Bonjour.
Bienvenue dans le souffle de la pensée. Vous êtes historien, professeur au Collège de France, directeur d'études à l'EHESS. Vous êtes spécialiste de l'histoire des Lumières. Vous avez écrit plusieurs ouvrages sur le sujet. Le dernier, je le cite, L'illusion d'un monde commun, Tahiti et la découverte de l'Europe, est paru aux éditions Flammarion et s'ouvre justement avec le supplément au voyage de Bougainville de Diderot que vous avez choisi d'évoquer ce matin. Mais avant de venir à pourquoi vous avez choisi ce texte, hormis le fait qu'il apparaisse dans votre dernier livre, que pensez-vous de cet extrait qu'on a entendu de « Il était une fois les explorateurs » qui date de 1996, dans lequel on retrouve quand même un certain nombre de clichés hein, qu'on va aborder durant cette émission. On est en 1996 et le texte de Diderot est paru de manière posthume en 1795-96. Donc on est quand même 200 ans après et on se rend compte que quand on parle quand même des Tahitiens que Bougainville a rencontrés, on les présente toujours de la même manière.
Oui, bien sûr, il y a eu, alors ça c'est très important, il y a eu une puissance de traîne, d'un imaginaire à la fois exotique, primitiviste et en même temps idéalisé, idyllique de cette rencontre qui a été construite d'abord par Bougainville lui-même lorsqu'il publie son voyage autour du monde immédiatement après son retour et puis par les récits qu'il en a fait. Mais c'est intéressant que tout de suite d'ailleurs dans cet extrait d'un dessin animé pour les enfants, Diderot apparaissent parce que Diderot est le succès, et le succès scolaire aussi, le fait que le supplément voyage de Bougainville soit devenu à la fois un classique de la littérature du XVIIIe siècle, ce qui n'était pas à l'époque, on en reparlera puisqu'il a été publié plus tard, enfin sous la Révolution, mais ensuite devenu un classique de la littérature du XVIIIe siècle, plus un classique scolaire, vous y faisiez allusion tout à l'heure.
Mon trauma.
Un trauma pour certains, peut-être une découverte pour d'autres. Et ça a fait que cette représentation, la fable en fait que Diderot produit, a renforcé la perception qu'on a aujourd'hui de cette rencontre.
Pourquoi vous avez choisi, pourquoi avoir choisi ce texte, Antoine Ilty? Je dis, vous le citez dans votre dernier livre, c'est vraiment le premier texte que vous citez. Et d'ailleurs, vous faites une enquête sur Aoutourou, on va y revenir, mais c'est un des personnages qui apparaît dans le texte de Diderot. Est-ce que c'est aussi une découverte pour vous, du coup, une révélation scolaire et non pas un trauma? Ou au contraire, justement, peut-être un texte avec lequel il y a eu un trauma et comme moi, vous voulez en découdre, vous ne voulez pas vous laisser abattre par ça?
Oui, alors, donc, en fait, il faudrait presque inverser, c'est-à-dire que je ne l'ai pas choisi parce que c'est le point de départ de mon livre, c'est plutôt que c'est le point de départ de mon livre parce que depuis des années, depuis très longtemps, c'est un texte avec lequel, effectivement, je dialogue. Alors, ce n'est pas un souvenir scolaire, peut-être que je l'ai lu au lycée, mais je m'en souviens plus. Alors moi au bac j'avais Candide, donc vous voyez j'étais aussi tombé déjà dans le 18e siècle.
Mais ça s'était bien passé pour vous.
Ça allait. Ouais. Mais à l'époque j'imaginais pas un instant qu'un jour je consacrerais
toute votre vie à Voltaire 18e et Diderot.
Ça m'aurait beaucoup étonné à vrai dire.
C'est vrai, parce que vous n'étiez pas voilà, ça faisait partie d'un corpus scolaire à lire, plutôt d'obligation, de devoir.
Exactement. J'étais quand même beaucoup plus intéressé par des choses plus contemporaines, à la fois en littérature et en histoire. Bon, c'est un peu une autre histoire peut-être, mais mon goût pour ma découverte du 18e siècle est venu plus tardivement dans mes études d'histoire.
Et pourquoi? Parce que vous avez eu un super prof ou?
Oui, j'ai eu des super profs, et en particulier l'un qui s'appelait Daniel Roche, qui était ensuite mon directeur de thèse, et dont les travaux que j'ai découverts, mais vraiment au moment où je passais l'agrégation d'histoire. Et jusque-là, je faisais de l'histoire contemporaine, je travaillais sur le XXe siècle, et aussi bien en littérature. J'hésitais entre l'histoire et la littérature, mais plutôt du XXe siècle, et en fait, ça a été progressivement une découverte du XVIIIe siècle.
Parce qu'il y a eu des questions, au-delà de l'importance d'un professeur, il y a eu des questions qui résonnaient de manière où vous avez dit « ça, c'est la question ». Je dis pour les auditeurs et auditrices, vous avez, je l'ai dit, vous êtes spécialiste des Lumières, mais vous avez d'abord travaillé plutôt sur la reconnaissance, la célébrité, sur les salons. Là, maintenant, c'est plutôt la question coloniale qui vous intéresse, sur l'héritage aussi des Lumières. Qu'est-ce qu'il y a eu comme question posée par ces Lumières où vous vous êtes dit « alors ça, c'est la question qui me fascine ».
Alors, je dirais, il n'y a pas une question qui me fascine, mais j'ai compris à ce moment-là, j'ai découvert, et depuis je n'en suis pas sorti, que le XVIIIe siècle était un lieu historique extraordinaire pour penser les contradictions de notre période, pour les penser avec de la distance. Parce que, justement, en travaillant sur une histoire très contemporaine, finalement, je trouvais que je manquais de distance et de la distance historique. Et en même temps, avec le XVIIIe siècle, on est au cœur des origines de la modernité. Et donc, énormément de phénomènes modernes et de questions modernes, que ce soit la question de la liberté, que ce soit la question de la démocratie, que ce soit la question du progrès scientifique, que ce soit la question de la tolérance religieuse, que ce soit la question du vivre ensemble, que ce soit la question du rapport entre l'Europe et le reste du monde, et donc à la fois la question du colonialisme et la question de l'universalisme, toutes ces questions-là, elles sont posées, agitées, débattues, peut-être pas tout à fait pour la première fois, sinon mes amis historiens de période plus ancienne vont pas être contents, mais en tout cas, elles sont vraiment au cœur du XVIIIe siècle. Et donc, du coup, ça permet d'avoir la distance historique, quand même le propre du travail des historiens, avec des effets d'étrangeté, et en même temps d'interroger notre présent à partir du XVIIIe siècle. Et ça, c'est au fond le cœur de mon travail maintenant depuis une vingtaine d'années, qui est ce va-et-vient permanent entre des enjeux, des débats contemporains et le XVIIIe siècle. Et c'est là que j'ai fini par rencontrer Diderot.
Ouais. Et effectivement, quelle question, à quel moment vous rencontrez le supplément au voyage de Bougainville, non pas dans votre scolarité, mais plutôt à ce moment où vous dites ce texte cristallise justement ces effets de perspective, le fait de poser un débat dans des termes, dans un cadrage qu'on va retrouver encore 200 ans plus tard. Qu'est-ce qui se joue avec ce texte en particulier?
Alors en fait, les choses se sont déplacées. C'est-à-dire qu'au départ, d'abord, c'est pas le texte par lequel j'ai rencontré Diderot. Enfin, c'est le texte, par exemple, c'est d'abord Jacques le Fataliste, hein, le grand roman de Diderot, à la fois roman philosophique et picaresque, d'une drôlerie, d'une ironie. Et à partir de ce texte-là, plus la correspondance, plus le neveu de Rameau, plein d'autres textes. Et c'est vrai que Diderot, au fond, est mon auteur fétiche du XVIIIe siècle, parce que chez Diderot, il y a tout ce que j'aime dans le XVIIIe siècle, c'est-à-dire l'ironie, la mise en dialogue, la réflexivité.
Le refus de parti pris aussi, d'une certaine manière.
Le refus de parti pris, la tentative toujours aussi d'essayer de penser contre lui-même, d'innover, de tenter des choses. Et puis un humour, hein, une drôlerie qui n'est pas l'humour... J'aime beaucoup Voltaire, mais c'est pas l'humour méchant de Voltaire, l'humour satirique. C'est une drôlerie beaucoup plus moderne, en fait, presque post-moderne, hein, par moment. Si on pense au début de Jacques le Fataliste, c'est vraiment une mise en abîme du roman. Bon, donc ça, c'est quelque chose qui chez Diderot m'a toujours plu. Et au départ, le supplément Voyage de Bougainville, j'ai lu comme ça, parce que peut-être qu'on peut dire pour les auditeurs qui l'ont plus en tête. C'est un texte compliqué, puisque c'est un texte qui est lui-même donc une réaction au Voyage de Bougainville que Diderot a lu. Au début, il écrit un compte-rendu. Alors évidemment, en plus pour nous, universitaires, on écrit des comptes-rendus et puis ça devient un classique. Ça, c'est quand même amusant. Malheureusement, ça arrive rarement. Et donc, il écrit un compte-rendu. Et puis, au fond, ce compte-rendu, il va le retravailler et puis il va en faire quelque chose de tout à fait autre chose. Il en fait un objet littéraire un peu... donc, il invente... Des chapitres supplémentaires au Voyage de Bougainville, en prétendant que ce sont des suppléments qu'il a découverts. Évidemment, personne n'est dupe, on sait bien que c'est une fiction. Et il les encadre d'un dialogue entre deux personnages qui permettent, au fond, de modéliser. C'est-à-dire qu'on ne sait pas vraiment, est-ce que il y a du jeu, quelle est l'interprétation, qu'est-ce qu'on doit penser de ces textes, surtout qu'en réalité, ils sont un peu contradictoires entre eux. Et donc, c'est d'abord l'opération, en fait, littéraire et intellectuelle, une certaine manière d'écrire de la philosophie qui, pour moi qui ne suis pas philosophe, je trouve extraordinairement séduisante, parce qu'en fait, Diderot va agiter des grandes questions théoriques. Qu'est-ce que la morale? Qu'est-ce que la religion? Qu'est-ce que la liberté? Est-ce qu'il existe des valeurs universelles ou au contraire un relativisme des cultures? Donc des grandes questions, mais il les agite à partir d'un enjeu d'actualité immédiat, c'est-à-dire ce voyage autour du monde et cette rencontre de Bougainville avec les Polynésiens 2 ans auparavant. Donc il est dans l'actualité, il agite des grandes questions philosophiques et il le fait avec une liberté littéraire absolument totale. Et donc ça, c'est la première chose qui m'a fasciné. Et puis... ensuite, au moment où je me suis mis à travailler il y a une dizaine d'années sur la question du rapport des Lumières à l'universalisme et donc à la question du rapport notamment à la diversité des cultures et à la question coloniale, pourquoi je me suis mis à travailler parce que aujourd'hui, vous le savez, c'est un des grands enjeux polémiques au fond autour des Lumières. Est-ce que les Lumières sont une pensée universaliste et émancipatrice, ou est-ce que les Lumières sont au fond l'idéologie occidentale ayant masqué la colonisation?
Est-ce que l'universalisme est véritablement universel?
Exactement. Et il y a une critique qui a été notamment mise en avant par ce qu'on appelle la pensée postcoloniale ou décoloniale, consiste à dire, au fond, les Lumières, ce n'est que l'idéologie de l'Occident colonisateur. Et de ce point de vue-là, le supplément Voyage de Bougainville, c'est la carte maîtresse pour dire, regardez, c'est en tout cas infiniment plus compliqué. Et il y a, chez des auteurs majeurs des Lumières, des auteurs qui sont tout à fait centraux comme Diderot, il y a en réalité des textes qui sont d'une violence anticoloniale absolument totale.
Et en même temps, il y a aussi des passages avec lesquels vous vous débattez, Antoine Lilti, on va en parler dans l'émission, qui vous posent encore problème, et je pense, et bien au-delà de mon trauma personnel, que c'est un texte compliqué à manipuler pour toutes les raisons que vous avez données. Il n'y a pas de thèse à véritablement à donner. Il y a une diversité de points de vue. Il y a effectivement les deux personnes dont vous avez parlé, c'est A et B. Mais qui sont-elles, ces personnes? Moi, ça m'a rendu dingue. Alors oui, on peut dire que ce sont des hommes, mais quand on ne sait pas qui parle, en fait, c'est comme si on présupposait que le lecteur le savait et qu'on se parlait entre nous. Donc tout le monde est un petit peu à la fois d'accord et en même temps, on ne sait pas en fait vraiment à qui on s'adresse, qui on écoute. Il y a un aumônier, on met des discours dans la bouche des Tahitiens, en fait, qui, on le sait, sont mis dans cette bouche-là par, en fait, un écrivain français. Et en fait, tous ces effets de de perspectives revendiquées, mais aussi subies d'une certaine manière, enfin involontaire, Diderot ne pouvait pas tout à coup devenir tahitien, font que le texte, effectivement, est difficile à situer et même à objecter, en fait, d'une certaine manière. C'est difficile de le contredire. On peut tout de suite ne pas l'aimer, ne pas savoir comment le prendre, et puis se dire, en fait, qu'on n'a rien compris et qu'il voulait rien dire.
Alors, absolument. Alors, je comprends tout à fait que ça a été, que ce soit troublant et que ça a été un trauma. Peut-être qu'en fait, c'est pas du tout un texte qu'on devrait faire lire.
J'étais en terminale.
Sais bien.
Et c'était pas le collège.
Voilà. Et aujourd'hui, c'est au programme, notamment en première dans la spécialité HLP. Ouais. Beaucoup, c'est un texte qu'on étudie pour penser la rencontre, le voyage et la rencontre culturelle. Mais c'est un texte en même temps, en fait, effectivement, extrêmement difficile parce que la question de savoir quel est l'argument que défend Diderot, et donc si est-ce qu'on est d'accord ou pas d'accord, et en fait, les questions ne se posent pas comme ça. Diderot nous fait réfléchir, il nous oblige à réfléchir, à regarder des réalités sous des angles différents, et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, pour moi, c'est ça le style intellectuel des Lumières, consiste justement à ne pas conclure, à ne pas imposer au lecteur une thèse, mais à l'obliger justement par la forme du dialogue, par l'humour, par le fait d'être critique de sa propre position d'auteur, Diderot le fait en permanence, il oblige le lecteur au fond à s'interroger sur ses préjugés, et ce sont des expériences de pensée qui sont proposées au lecteur, mais qui ne lui sont pas imposés. Et alors, du coup, c'est pour ça que c'est un texte, je dirais, quand vous m'avez demandé quel est de choisir un texte qui m'est beaucoup marqué, j'avais le choix entre plusieurs textes. Il y a des textes, au fond, je dirais, qui sont des révélations. On a tous ça, des textes qu'on lit, et après les avoir lus, l'argument est tellement fort qu'on se dit, bon, je ne verrai plus les choses de la même manière. Et donc, ce sont des textes qui deviennent des références. Et puis, je dirais qu'il y a des textes qui sont plutôt des textes qui accompagnent et avec lesquels on ne cesse de se débattre. Et parfois, je trouve que le supplément Voyage de Bougainville est un texte admirable, qui est la grande leçon du pluralisme ironique et critique et anticolonialiste des Lumières. Et à d'autres moments, je suis sensible à des manques, des points obscurs, voire on va en reparler au paternalisme en fait de Diderot à l'égard de ces populations, tahitiennes, et au fait que même dans ce texte-là, eh bien, il y a quelque chose qui résiste, d'une incapacité des Lumières véritablement à penser les autres et à penser l'expérience des autres. Ce qui fait que, mais par exemple, puisque vous évoquez ce livre récent dans lequel je pars d'un point qui me semble vraiment problématique dans ce texte. Alors, certains collègues m'ont dit mais quand même t'es très dur avec Diderot. Ce qui est paradoxal parce que c'est un texte que j'adore.
Ceux qui ont les textes qu'on préfère aussi, avec lesquels on se débat le plus. Aujourd'hui, quelqu'un qui ne connaîtrait pas ou a de souvenirs lointains sur le supplément Voyage de Bougainville, c'est quand même un plaisir de lecture. C'est-à-dire que c'est un texte court avec effectivement une diversité de points de vue, avec des types de textes. Certains se présentent comme des dialogues, d'autres comme des discours, d'autres comme des échanges, des confrontations de pensées et d'expériences. Aujourd'hui, une personne qui ne s'en souviendrait plus ou qui ne connaîtrait pas du tout le texte, pourquoi vous lui diriez de lire ce texte? Est-ce qu'il y a un risque qu'on le lise mal?
Non, je crois pas qu'il y ait de risque qu'on le lise mal. Je pense qu'il y a plein de façons, justement, de le lire. On y voit des choses différentes à tout moment. D'abord, c'est un texte court, c'est un texte, alors il faut être sensible à il faut avoir un goût pour l'ironie diderotienne, pour sa façon d'avancer un élément, et puis ensuite de se rétracter en disant, mais je ne disais peut-être pas ce que vous pensiez que j'étais en train de dire. Mais d'abord, je crois qu'on va en entendre un passage. Il y a un texte magnifique au début qui sont les adieux du vieillard, qui est en fait un grand texte de la tradition anticoloniale européenne. Donc déjà, ça oblige à réfléchir à la façon dont l'Europe du XVIIIe siècle a su penser les dangers, les risques de son emprise sur le monde. Donc cette réflexivité critique, elle est très importante. Et puis, c'est aussi une réflexion, mais peut-être plus plus inquiète qu'on ne le pense sur les rapports entre la nature comme source de la moralité et l'hypocrisie sociale. Voilà, au fond, c'est un grand texte sur la question des avantages et des limites respectifs du naturalisme et de l'hypocrisie sociale.
Vous avez parlé des adieux du Vierre, on va tout de suite en écouter un extrait, Antonelli.
Toi, chef des brigands qui t'obéissent, écarte promptement ton vaisseau de notre rive. Nous sommes innocents, nous sommes heureux, et tu ne peux que nuire à notre bonheur. Nous suivons le pur instinct de la nature, et tu as tenté d'effacer de nos âmes son caractère. Ici, tout est à tous, et tu as prêché je ne sais quelle distinction du tien et du mien. Nos filles et nos femmes nous sont communes, tu as partagé ce privilège avec nous, et tu es venu allumer en elles des fureurs inconnues. Nous sommes libres, et voilà que tu as enfoui dans notre terre le titre de notre futur esclavage. Celui dont tu veux t'emparer comme de la brute, le Tahitien, est ton frère. Vous êtes tous deux enfants de la nature, quel droit as-tu sur lui qu'il n'est pas sur toi? Tu es venu, nous sommes-nous jetés sur ta personne? Avons-nous pillé ton vaisseau? T'avons-nous saisi et exposé aux flèches de nos ennemis? T'avons-nous associé dans nos champs au travail de nos animaux? Nous avons respecté notre image en toi. Laisse-nous nos mœurs, elles sont plus sages et plus honnêtes que les tiennes. Nous ne voulons point troquer ce que tu appelles notre ignorance contre tes inutiles lumières. Tout ce qui est nécessaire et bon, nous le possédons. Sommes-nous dignes de mépris parce que nous n'avons pas su nous faire des besoins superflus ?
Nous voici au deuxième chapitre. Alors, on ne peut pas vraiment parler de chapitre, Antoine Lilti, mais du moins la deuxième partie de ce supplément au voyage de Bougainville de Diderot, lu ici par Nicolas Berger. Et cette partie, ce deuxième chapitre, se présente comme les adieux du vieillard. Alors, ce vieillard, c'est un vieillard de Lille qui dit au revoir, de manière quand même très accusatrice à Bougainville et à son équipage, en disant « voilà ce que tu as fait ». Et c'est ce discours dont vous nous parliez, Antoine Lilti, où là, pour le coup, bon, il y a une thèse, une intonation anticoloniale qui est assez claire. Hein, il n'y a pas vraiment de question, là.
Ah non, là, elle est très très claire. Là où la question va apparaître d'une certaine manière, c'est que, immédiatement après, Diderot dira « oui, ce sont des propos et des formules un peu modelées à l'européenne. »
Aux accents européens, est-il dit.
Il a parfaitement conscience, en fait, que c'est son discours. Ce qui est amusant, c'est qu'il s'appuie sur un passage du récit de Bougainville lui-même, mm-hmm. qui évidemment n'évoque pas du tout un discours de ce type, mais dit que lorsqu'il est arrivé, il y avait un vieillard qui ne disait rien. Et donc, il prend un personnage qui existe dans le voyage de Bougainville, et puis il en fait un protagoniste, il met dans sa bouche un discours très anticolonial. Et donc, c'est intéressant parce que, aussi, Bougainville, lui, raconte la scène du départ, c'est les Tahitiens qui sont éplorés, qui sont tellement tristes que leurs nouveaux amis repartent, etc. Ce qui est évidemment une vision tout à fait idyllique, d'autant qu'on sait, mais ça Diderot ne le savait pas forcément, mais on le sait par les journaux de bord qu'en réalité il y a eu des moments de violence pendant le séjour de Bougainville. Ça a été beaucoup moins idyllique que ce qu'il raconte.
Des moments de violence entre Bougainville et son équipage envers les Tahitiens, ou plutôt les Tahitiens, de quelle
non,
violence s'agit-il
en l'occurrence, là, il s'agit de violence à l'égard des Tahitiens, parce qu'en fait, les Tahitiens... il y a eu plusieurs épisodes en fait de vol où les Tahitiens prenaient des objets des Français. Et du coup, plusieurs fois, des marins ont battu, et parfois même il y a eu 3 ou 4 Tahitiens qui ont été tués. Et donc, ça, à chaque fois, ça a créé des quasi-révoltes. Donc en fait, pendant la dizaine de jours où ils sont sur l'île, à la fois les choses globalement se passent bien, mais enfin il y a un sous-texte, il y a des violences et en fait Bougainville est toujours un peu inquiet que les choses
dégénèrent.
C'est
qu'une dizaine de jours, hein.
Oui, voilà, ça c'est.
Alors ça c'est dingue parce que c'est vrai que quand on lit le supplément Voyage de Bougainville, même si on sait que c'est une fiction imaginée par Diderot, on imagine notamment par les discussions suscitées sur les mœurs, la confrontation des mœurs, on a l'impression en fait que c'est une cohabitation de longue date où effectivement, bah il y a notamment ce passage de l'aumônier qui est chaste quand il est en Europe, mais qui en fait sur l'île de Tahiti, voilà, va se prêter aux coutumes, va comprendre en fait qu'il doit en fait jouer le jeu et donc va coucher avec toute une famille, les filles, et d'ailleurs ça donnera lieu à une grande discussion sur l'inceste et sur le fait de aussi la sexualité. Donc en fait on a quand même cette impression de pardon pour ce terme là, mais d'interpénétration en fait des mœurs sur plusieurs mois, sur même presque un an. Hein.
Oui, alors en fait, pas du tout. Effectivement, il y a une disproportion entre le fait que, alors que le voyage de Bougainville autour du monde dure 2 ans et demi, son escale à Tahiti dure 9 jours, et c'est ça que tout le monde a retenu. Et c'est ça dont on va parler, ça dont Diderot parle, et c'est ça qui va marquer profondément les esprits. Alors qu'en réalité, il est resté effectivement très peu de temps. Alors ce qui est vrai, c'est qu'il va embarquer avec lui un personnage dont on parlera peut-être tout à l'heure, qui s'appelle Aoturu, qui est tahitien, avec qui il va avoir un certain nombre de conversations, en tout cas d'échanges, qui va permettre à Bougainville de comprendre plus de choses sur la société tahitienne que ce qu'il avait compris lors du séjour. Mais c'est vrai que le séjour est très court. En revanche, on peut le mentionner, les Anglais, eux, notamment de James Cook, vont eux passer plusieurs mois à plusieurs reprises. Donc là, la vraie interaction profonde entre les Européens et les Polynésiens et les Tahitiens dans cette période-là, ce sont les Anglais lors des voyages de James Cook. Mais c'est vrai que Diderot en fait commente et donc ça lui laisse aussi une très grande liberté pour inventer le type de relation. Et pour revenir au discours du vieillard, ce qui est assez frappant, c'est que l'expédition de Bougainville et l'arrivée de Bougainville à Tahiti n'est pas proprement parlé coloniale. C'est pas une expédition coloniale. Ils occupent pas l'île. Ils sont pas là pour. Au contraire, c'est une expédition alors qui a un arrière-plan impérial, mais néanmoins qui est pensée comme plutôt une exploration scientifique de connaissances, de rencontres. Mais lui, Diderot, il met dans la bouche de ce vieillard la dénonciation du danger colonial. Ils reviendront, il dit à ses compatriotes, il lui fait dire, ils reviendront pour vous asservir. Donc cette idée que les Européens, au fond, partout où ils vont, portent ce danger de l'asservissement. Et donc on a cette dimension coloniale, presque on pourrait lire aussi et entendre ce texte de manière comme des imprécations lancées à Bougainville. Mais par ailleurs, et Diderot va quand même très loin, parce que c'est pas seulement la critique de la violence coloniale, c'est la critique au fond de l'arrogance des Européens, avec ce passage quand même assez, moi, m'a toujours beaucoup frappé, où il dit « Nous n'avons pas besoin de tes inutiles lumières ». Alors, c'est quand même Diderot qui écrit ça, quand même le directeur de l'encyclopédie, qui est la figure même de la diffusion du savoir, le grand philosophe des Lumières. Il fait dire à ce Polynésien, nous n'avons pas besoin de tes inutiles lumières. Donc on est c'est l'opposé absolu de la mission civilisatrice, de l'idée de l'Europe qui diffuserait ses lumières. Et donc il y a cette idée qu'au fond, et pourquoi ? Parce que les lumières, elles vont avec des besoins superflus.
Ce qui est dit à la fin, c'était les derniers mots qu'on a diffusés. Sommes-nous dignes de mépris parce que nous n'avons pas su nous faire des besoins superflus ? Alors là, c'est presque une critique très rousseauiste. C'est quand même le premier discours de Rousseau sur le progrès des sciences et des arts et de la morale, où en fait, contre toute attente, Rousseau nous dit que les sciences, les arts corrompt la bonne nature des hommes. Alors là, on retrouve aussi le mythe du bon sauvage. Est-ce que vous pouvez en dire deux mots quand même, Antoine Nilti ? Parce que ce vieillard nous semble être ce bon sauvage qui est quand même un mythe problématique à beaucoup d'égards.
Oui, bien sûr. C'est le moment, au fond, de discussion qui est au cœur de cette, des débats des Lumières à ce moment-là sur les bienfaits de la civilisation. Civilisation, le mot même civilisation, est un néologisme du XVIIIe siècle. Il apparaît exactement à ce moment-là. Par contre, le terme civilisé, lui, est présent. Et donc, il y a, au fond, au cœur, disons, qu'il y a une pensée dominante, on pourrait dire, des Lumières, qui est l'idée que l'humanité doit passer de la sauvagerie ou de la barbarie à la civilisation, que la civilisation est un progrès, qu'elle est due au commerce, qu'elle est liée au raffinement des mœurs, à la société urbaine, aux arts et aux lettres. Bon, c'est au fond, c'est le discours des Lumières. Le savoir rend libre, le savoir rend les sociétés plus heureuses, et donc il faut produire du savoir. Mais Rousseau et d'autres, mais surtout Rousseau, évidemment, s'inscrit en faux contre cette vision.
On est en 1750, donc au milieu du siècle.
Entre 1751, puis avec le discours sur l'origine de l'inégalité, au fond, c'est l'idée qu'en réalité, la civilisation est une corruption. La civilisation, la vie naturelle, la vie sauvage, la vie naturelle est une vie de liberté, certes d'insécurité, etc., mais d'abord avant tout une vie de liberté, et que la civilisation est une vie de corruption morale. Et donc cette idée qu'au fond, c'est une manière de découpler complètement la question du progrès scientifique et social et la question du progrès moral. Mais évidemment, chez Diderot, chez Rousseau, ça ne s'appuie pas sur un savoir ethnographique. C'est pas les sauvages au sens ethnographique du terme. C'est une fiction.
Alors, complètement fictionné. Il faut vraiment le dire. Oui.
Complètement fictionné. D'ailleurs, Rousseau le dit. C'est célèbre entrée, alors surtout dans le discours sur l'origine de l'inégalité, où il dit « écartons tous les faits ». Il dit c'est, et donc, c'est une fiction de l'état de nature. Mais il n'empêche que, chez Rousseau, il y a quand même, c'est quand même articulé à quelques récits de voyage et quelques figures, effectivement, de sauvages qui préfèrent retourner à l'état sauvage après avoir découvert la civilisation. Et donc, on a ce débat. Et Diderot, évidemment, l'arrière-plan du supplément Voyage de Bougainville, c'est la critique rousseauiste. Et Diderot l'entend. Parfois, on a cru que le supplément Voyage de Bougainville était justement un texte rousseauiste sur ce plan, qui était un texte primitiviste, puisque donc dans le débat que vous évoquiez entre Auroux, donc un personnage tahitien qu'invente Diderot, et l'aumônier de bord de Bougainville, Auroux plaide pour une philosophie, au fond une philosophie sauvage, une philosophie de la nature, contre l'hypocrisie et la corruption de la société européenne. Et on a souvent pensé qu'Auroux était là le porte-parole de Diderot, et qu'au fond, on avait un texte primitiviste, au sens d'un texte, effectivement, d'un éloge du bon sauvage. Mais en réalité, les choses sont beaucoup plus compliquées, parce que Diderot, au même moment, écrit d'autres textes où il est aussi très attaché, en réalité, Diderot, aux arts et aux lettres, à la civilisation, à la vie urbaine, au confort. Donc, on n'est pas sur l'affirmation d'une thèse du bon sauvage. Enfin, d'ailleurs, le terme même, et Rousseau l'utilise pas, mais en tout cas, de cette supériorité morale. Mais c'est plutôt une manière, ce qu'on disait tout à l'heure, sont des expériences de pensée pour voir ce que ça implique si on va jusqu'au bout de cet argument sur la supériorité morale de la vie, de ce que Diderot appelle le code de la nature.
Ouais, le code, il parle des trois codes, code de la religion, code de la loi et code de la nature. La question que je me pose en vous écoutant, Antoine Nilti, c'est est-ce que Diderot, en fait, critique l'esclavage, le colonialisme dont il a l'intuition qu'ils vont se produire, qu'ils sont déjà en train de se produire, ou est-ce qu'en fait, ce discours, les adieux du vieux vieillard, sert surtout, en fait, à critiquer les mœurs européennes et donc ces codes fondés sur la religion, avec tout ce que ça comporte de morale, arbitraire, voilà les mœurs européennes et qu'il veut critiquer. Qu'est-ce qu'il critique ? Voilà, c'est quoi en fait ? Ok, j'ai compris la diversité des discours et la dimension ouverte, mais au fond, son objet, c'est quoi ? Nous faire réfléchir sur ce qu'on veut faire à d'autres ou ce qu'on fait déjà à nous-mêmes ?
Alors, il y a absolument les deux. Et c'est pour ça qu'il y a au fond deux grand chapitre, les adieux du vieillard, et puis au fond, ce qui est la pièce la plus importante du texte, qui est donc le débat, le dialogue entre Auroux et l'aumônier. Et l'ensemble est encadré donc par ce dialogue qui vous a désarçonné autrefois entre A et B.
Qui sont-ils ?
Mais donc, ces deux... on y reviendra peut-être sur ce qu'ils sont-ils. Mais en tout cas, on a ces deux passages. Alors, très clairement, le dialogue entre Auroux et l'aumônier, ça s'inscrit d'ailleurs dans un genre littéraire et philosophique qui est le dialogue entre un sauvage et un européen, qui vise effectivement à critiquer très nettement, à critiquer l'hypocrisie d'une société européenne, et l'idée que au fond, les sociétés européennes sont mal fondées dans leurs lois et dans leurs croyances, parce que justement elles se sont trop éloignées de la nature. Donc ça, c'est très clairement un outil critique, d'une part un outil critique contre la société européenne de son temps, du XVIIIe siècle, société dont vous rappelez quand même que ce sont des sociétés absolutistes, que ce sont des sociétés inégalitaires, des sociétés où l'Église chrétienne a un poids absolument essentiel. Donc là, on a un geste qui est un geste classique des Lumières, d'aller chercher un discours, de faire une fiction d'un discours extérieur pour tenir un discours critique sur l'Europe. Mais, en revanche, la première partie, donc le dialogue, le discours du vieillard, il est véritablement un discours là qui vise à critiquer ce que les Européens font au reste du monde. Et c'est pas du tout un texte isolé chez Diderot, parce que il faut rappeler que le texte, je sais pas si on l'a dit, mais Diderot l'écrit donc en 1771-72.
Donc au moment où paraît d'ailleurs le journal de Bougainville, voilà. Tout de suite, il réagit en fait.
Voilà, il écrit l'année suivante, 72, ça va paraître dans un journal manuscrit en 73. On pense qu'il l'a écrit en 71-72. Or, au même moment, toute la décennie 1770, c'est un moment où il écrit énormément pour un livre qui s'appelle « L'histoire philosophique des deux Indes », qui est officiellement publié par son ami l'abbé Raynal. On sait aujourd'hui que Diderot en a écrit presque un tiers. Il a écrit notamment les passages les plus anticoloniaux. Et donc, au fond, on a des textes qui sont très très proches de ce qu'on trouve là dans le discours des adieux du vieillard, qui sont des textes, là encore, très violents contre l'esclavage, contre la colonisation, des appels même, alors évidemment rhétoriques, mais des appels à la révolte des colonisés contre les colons européens. Donc on est dans un grand moment anticolonial de Diderot et plus largement de la pensée des Lumières. Donc c'est pas juste deux pages comme ça avec lesquelles Diderot s'est fait plaisir, si on peut dire. C'est vraiment...
C'est pas des pages isolées, quoi.
Non, ça s'inscrit dans le tournant anticolonial des Lumières dans les années 1770. L'histoire philosophique des deux Indes, alors aujourd'hui c'est un texte qui n'a pas la célébrité de Candide,
qui est oublié, on peut le dire.
Mais qui a été un des grands textes des années 70-80, les travaux d'historiens qui montrent que c'est un des textes qui a été le plus lu, le plus vendu. C'est 10 volumes, c'est vraiment l'encyclopédie du monde colonial.
Puis ça s'étale vraiment la parution sur la décennie 1770-1780.
Absolument.
Hein. Donc ça ponctue toute cette décennie.
C'est ça, il y a 3 éditions, à chaque fois augmentées. Et c'est vraiment un texte qui a été beaucoup lu.
Alors on va écouter, Antoine Lilti, un passage qui vous pose problème, qui vous a posé problème, avec lequel vous vous êtes débattu peut-être encore maintenant.
Avez-vous vu le Tahitien que Bougainville avait pris sur son bord et transporté dans ce pays-ci?
Je l'ai vu. Il s'appelait Aotourou. À la première terre qu'il aperçut, il l'a pris pour la patrie des voyageurs. Soit qu'on lui en eût imposé sur la longueur du voyage, soit que, trompé naturellement par le peu de distance apparente des bords de la mer qu'il habitait, à l'endroit où le ciel semble confiné à l'horizon, il ignora la véritable étendue de la terre. L'usage commun des femmes était si bien établi dans son esprit qu'il se jeta sur la première européenne qui vint à sa rencontre et qu'il se disposait très sérieusement à lui faire la politesse de Tahiti. Il s'ennuyait parmi nous. L'alphabet haïtien n'ayant ni B, ni C, ni D, ni F, ni G, ni Q, ni X, ni Y, ni Z, il ne put jamais apprendre à parler notre langue. qui offrait à ses organes inflexibles trop d'articulations étrangères et de son nouveau. Il ne cessait de soupirer après son pays, et je n'en suis pas étonné.
Oh, Aoturu, que tu seras content de revoir ton père, ta mère, tes frères, tes sœurs, tes maîtresses, tes compatriotes. Que leur diras-tu de nous ?
Peu de choses, et qu'ils ne croiront pas.
Pourquoi peu de choses ?
Parce qu'il en a peu conçu, et qu'il ne trouvera dans sa langue aucun terme correspondant à celle dont il a quelques idées. La vie sauvage est si simple, et nos sociétés sont des machines si compliquées. Le Tahitien touche à l'origine du monde, et l'Européen touche à sa vieillesse. L'intervalle qui le sépare de nous est plus grand que la distance de l'enfant qui naît à l'homme décrépit.
France Culture, le souffle de la pensée. Géraldine Mosna-Savoie.
Nous voici au début du supplément au voyage de Bougainville de Diderot, lu par Nicolas Berger et Raphaël Laloum. Alors en fait, c'est ce dialogue, ce fameux dialogue qui encadre, là au début, mais il y en a aussi un à la fin, entre A et B. Alors qui sont A et B, et qui est Aoturu dont il parle avec, on pourrait parler de condescendance, on pourrait aussi parler de racisme, on parle de l'enfance de la raison, on parle de son rapport à l'alphabet, on parle de son rapport à la sexualité. D'ailleurs, on ne l'a pas dit, Antoine Hilti, mais la sexualité, même dans le discours du vieillard, c'est vraiment un point très important. Le rapport à la sexualité, le rapport à la nature se joue dans la sexualité. C'est ce passage-là qui vous a posé problème, Antoine Hilti, cette manière de décrire Aoturu qui est une personne réelle.
Oui, absolument. Sur la sexualité, ce qu'on peut dire, c'est que autant le dialogue entre Roux et l'aumônier va être toute une réflexion justement sur ce qui est naturel et ce qui est social dans la perception qu'on a de la sexualité. Mm-hmm. Donc c'est une vraie réflexion philosophique sur cette question. Autant là, Diderot utilise le rapport à la sexualité au fond pour une scène un peu de farce, hein, mm-hmm. Et donc un peu de manière un peu condescendante vis-à-vis d'Aoturu.
Oui, d'ailleurs, il dit lui faire la politesse de Tahiti. Il y a une tournure
voilà qui est à la fois drôle parce que il était et qui était un clin d'œil au fait que la plupart, ce qui évidemment, pourquoi est-ce que le récit, j'ai dit tout à l'heure que ça avait duré que 9 jours, mais c'est ça que tout le monde a retenu parce qu'il y a ces scènes que raconte Bougainville d'un accueil, une espèce de d'hospitalité sexuelle, en tout cas telle que les Européens l'ont vécu et l'ont surtout perçu. C'était peut-être, il y a peut-être une part de malentendu, mais ça c'est peu une autre histoire. Mais en tout cas, c'est comme ça que ça a été reçu, hein, l'idée que c'était une île de l'amour libre, hein, on l'appelle la nouvelle Citerre.
Une sorte de paradis perdu de la sexualité, où voilà. Tout le monde couche avec tout le monde.
Absolument, en plein air, etc.
Oui, on se demande même d'ailleurs si on ne peut pas se servir de ce texte, Antoine Hilti, comme à la fois pour critiquer les mœurs européennes, mais aussi pour défendre, justifier en fait des pratiques sexuelles d'inceste, de maintenant ce qu'on appellerait pédocriminel. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a quand même cette charge qui est assez choquante quand on lit aujourd'hui, on se dit, mais en fait, est-ce que c'est pas un plaidoyer de la sexualité sans entrave ?
Alors, absolument, c'est intéressant parce que c'est un texte qui, dans les années 60-70, après 68, en gros, il y a eu une redécouverte aussi du supplément Voyage de Bougainville, pas seulement sous la dimension anticoloniale, mais pour cette dimension de liberté sexuelle, puisqu'au fond, Roux, vous voyez, accueille l'aumônier en lui présentant, en lui disant, bah voilà, j'ai une femme, 3 filles, choisies avec laquelle tu veux dormir cette nuit, mais tu m'honorerais, tu nous honorerais, elles sont très demandeuses. Et ensuite, il explique une organisation de la société où, au contraire, non seulement il n'y a aucun tabou sur la sexualité, mais au contraire, elle est très fortement encouragée. Alors évidemment, ça s'est paru, c'est apparu comme une sorte d'utopie de la liberté sexuelle. Mais si on relit aujourd'hui attentivement, on s'aperçoit qu'au fond, c'est pas véritablement une liberté sexuelle, c'est une sexualité qui est ordonnée à un autre impératif, qui n'est pas l'impératif moral, chrétien, mais qui est un impératif nataliste. C'est un impératif démographique. Les femmes doivent avoir des enfants. Et en réalité, elles ne sont pas véritablement libres. Elles sont toujours sous la contrainte des hommes. Sous la contrainte des hommes qui ont un impératif démographique et aussi un impératif militaire. militaire. Il faut des hommes. Il faut des hommes pour se défendre, pour défendre l'île.
Le corps est à disposition, encore une fois.
Le corps est à disposition. Et il y a un imaginaire, en fait, qui est un imaginaire eugéniste, avec l'idée que, justement, pourquoi est-ce qu'il... Ensuite, il explique, Ourou, pourquoi est-ce qu'il veut que les Européens aient des relations sexuelles avec les femmes tahitiennes. Eh bien, en fait, pour améliorer la race. Donc là, il y a un imaginaire en réalité qui correspond à un imaginaire eugéniste des années de ces années-là, où les Européens, c'est le moment où on est en train d'inventer les théories raciales, et il n'est pas sûr que Ourou soit le porte-parole philosophique de Diderot, mais en tout cas, Diderot pousse jusqu'au bout, peut-être en y adhérant, mais peut-être en nous obligeant à nous interroger sur ce qu'implique une conception purement naturaliste de la morale sexuelle.
Si c'est ce que vous disiez, c'est des expériences de pensée, en fait. Qu'est-ce que ça ferait si on enlevait tout, si on enlevait la loi, la morale, la pudeur, la courtoisie, à un moment donné, il en est question. Voilà, qu'est-ce que ça fait de penser ça sans tout ce qu'on a créé en termes de règles?
Mais oui, parce qu'en fait, les Lumières, c'est la grande question des Lumières, c'est-à-dire une fois qu'on a critiqué la morale
de
la religion révélée, une fois qu'on essaye de penser un monde, un naturalisme ou un monde fondé sur l'intérêt, comment est-ce qu'on refonde une morale? Alors, il y a une tentation qui est de le refonder sur une morale strictement naturelle. C'est le corps, c'est la physique, c'est la démographie, etc. Et là, je pense que Diderot, c'est un moment où il est fasciné par cette perspective et il essaye d'aller jusqu'au bout de cette... Mais c'est pas du tout son dernier mot. C'est pas son dernier mot. Et au fond, comme beaucoup de cette époque, il hésite entre une conception qui est plutôt une conception sentimentale, sociale, civilisationnelle, en fait, de refondation de la vertu, donc de la morale fondée sur les relations sociales, et une qui est plutôt une conception disons, naturaliste. Et au fond, ici, c'est une manière de mettre en discussion cette conception, mais qui en réalité est une aporie. Et celui qui comprendra très bien que c'est une aporie, cette morale purement fondée sur la nature, le sexe, le corps, et qui va le renverser du côté de l'immoralisme, évidemment, c'est Sade. Et donc on est au cœur, au fond, des tentatives intellectuelles, littéraires, philosophiques des Lumières pour essayer de refonder une morale sur les ruines de la religion révélée et de la morale chrétienne.
Question qui se pose encore aujourd'hui, c'est-à-dire sur quelles règles, en fait, on fonde nos rapports sociaux, en vertu de quels principes, de quelles valeurs aussi. Maintenant, on parle beaucoup de valeurs, c'est un terme qui apparaîtra plus tard, mais quand même qu'on a encore aujourd'hui. Antoine Hilti, le temps presse.
Oui.
Alors, qu'est-ce qui vous pose problème dans ce texte? Qu'est-ce qui vous hérisse, peut-être?
Alors, c'est la mention d'Aotourou, parce qu'Aotourou, donc on sait que donc ce Tahitien que Bougainville a effectivement ramené avec lui, qui a passé un an à Paris, puis qui est reparti, qui malheureusement est mort avant de retourner à Tahiti. Mais donc, Diderot le mentionne. Diderot a eu la possibilité de le rencontrer pendant un an, mais en fait il le mentionne et au fond il le mentionne avec condescendance. Il n'est pas critique, il le considère comme une victime, mais comme un enfant. Comme un enfant qui, au fond, a passé son temps à pleurer après son île, et surtout un enfant qui n'a pas été capable de comprendre ce qui lui est arrivé. Et en réalité, c'est pour ça que ça m'a amené à enquêter sur Aotourou, sur son histoire, sur ce qu'il est devenu. Et j'étais très frappé que dans ce texte, qui est par ailleurs un texte inventif, un texte où Diderot critique l'arrogance des Européens, eh bien, en même temps, lui-même se montre incapable d'être attentif à ce qu'a pu être, ce qu'a été l'expérience réelle de ce Tahitien. Il l'écarte rapidement d'un geste qui est un peu un geste paternaliste, de dire, au fond, c'est un enfant qui n'avait pas dans sa langue et dans sa culture les moyens de comprendre ce qui lui arrivait. Et il le remplace par des personnages de fiction, ce qu'on vient d'évoquer, le vieillard et Ourou, des personnages de fiction, des Tahitiens de fiction, qui va pouvoir faire parler à sa guise. Et donc, même lorsqu'il s'agit de montrer que la diversité culturelle nous apprend quelque chose sur nous-mêmes, ce ne sont pas les vrais Tahitiens qui nous apprennent quelque chose sur nous-mêmes, ce sont les fantasmes du philosophe européen et la manière dont il les projette sur ces Tahitiens.
Et puis un peu des figures typiques, c'est-à-dire soit l'enfant qu'il faudrait éduquer, soit, donc là en l'occurrence Aoturu, soit le vieillard qui est le sage dont il faudrait s'inspirer. Donc c'est vraiment des figures typiques, très caricaturales. Comment vous avez réussi à résoudre cette déception à l'égard de Diderot, parce que c'est décevant en fait quand on lit ces lignes-là, on se dit qu'il a manqué quelque chose.
Oui, alors il faut pas avoir de position de surplomb parce que c'est un peu facile aujourd'hui, de célébrer. Donc il s'agit pas de le juger, de le condamner, il s'agit plutôt de d'identifier quelque chose dans la pensée européenne du XVIIIe siècle, même dans la moins eurocentrique, même dans la plus autocritique, il reste quelque chose qui, au fond, ce que j'appellerais le paternalisme des Lumières, c'est-à-dire que il s'agit quand même toujours, c'est les Européens qui ont la capacité de tenir un discours autocritique sur eux-mêmes. C'est eux qui ont toujours la puissance du récit et qui ne sont pas véritablement à l'écoute des autres. Et c'est là que, sans doute, si on veut réfléchir aujourd'hui à la façon de penser des formes, disons, plus pluralistes d'universalisme, eh bien, il faut sortir de cela, il faut aller plus loin que cette aporie.
On va écouter, pour clore cet échange sur Diderot, une lettre que vous nous avez indiquée qu'il écrit à Voltaire.
Je sais bien que quand une bête féroce a trempé sa langue dans le sang humain, elle ne peut plus s'en passer. Je sais bien que cette bête manque d'aliments et que, n'ayant plus de jésuites à manger, elle va se jeter sur les philosophes. Je sais bien qu'elle a les yeux tournés sur moi et que je serai peut-être le premier qu'elle dévorera. Je sais bien qu'un honnête homme peut en 24 heures perdre ici sa fortune parce qu'ils sont gueux. Son honneur parce qu'il n'y a point de loi, sa liberté parce que les tyrans sont ombrageux, sa vie parce qu'il compte la vie d'un citoyen pour rien et qu'il cherche à se tirer du mépris par des actes de terreur. Je sais bien qu'ils nous imputent leur désordre parce que nous sommes seuls en état de remarquer leur sottise. Je sais bien qu'un d'entre eux a l'atrocité de dire qu'on n'avancera rien tant qu'on ne brûlera que des livres. Je sais bien qu'ils en sont venus au point que les gens de bien et les hommes éclairés leur sont et leur doivent être insupportables. Je sais bien que nous sommes enveloppés par des fils imperceptibles d'une nasse qu'on appelle police, et que nous sommes entourés de délateurs. Je ne me dissimule rien, comme vous voyez, mon âme est pleine d'alarme. J'entends au fond de mon cœur une voix qui se joint à la vôtre et qui me dit « Fuis, fuis !» Cependant, je suis retenu par l'inertie la plus stupide et la moins concevable, et je reste. C'est qu'il y a à côté de moi une femme déjà avancée en âge et qu'il est difficile de l'arracher à ses parents, à ses amis et à son petit foyer. C'est que je suis père d'une jeune fille à qui je dois l'éducation. C'est que j'ai aussi des amis. Il faut donc les laisser, ces consolateurs toujours présents dans les malheurs de la vie, ces témoins honnêtes de nos actions. Et que voulez-vous que je fasse de l'existence si je ne puis la conserver qu'en renonçant à tout ce qui me la rend cher ?
Alors nous avons abandonné le supplément au voyage de Bougainville. Antoine Hilty, vous nous avez indiqué cette lettre de Diderot à Voltaire en 1766. Diderot, lui, va mourir en 1784. Que se passe-t-il à ce moment-là ? Diderot qui nous semble quand même dans une certaine liberté d'écriture, et on n'en a pas parlé, Antoine Hilty, ici en fait est poussé à fuir à cause de la censure. Alors que s'est-il passé ?
Alors là, ce qu'il faut, le contexte très rapidement, c'est donc Diderot depuis 1751, on le sait, le directeur de l'encyclopédie. L'encyclopédie a été soumise à des attaques, à la censure, à la critique en 1700. Et là, à ce moment-là, au moment où il doit sortir les derniers volumes, il est à nouveau attaqué par l'Église, par le pouvoir royal. Et Voltaire lui a écrit pour lui dire « il faut partir ». Parce que vous ne pourrez pas terminer l'encyclopédie à Paris, la menace est trop grande. Donc la solution, c'est, en fait, il fait comme moi, puisque Voltaire est à Ferney, et il dit partez, et notamment en Russie, Catherine II est prête à l'accueillir et à l'aider à terminer l'encyclopédie. Et Diderot, je trouve que c'est une lettre absolument extraordinaire, parce que il est parfaitement conscient du danger. C'est une lettre sur qu'est-ce que ça veut dire d'écrire dans un régime qui n'est plus un régime de censure violente et radicale comme elle l'a pu l'être auparavant. Il y a un espace de liberté. D'ailleurs, Diderot va terminer l'encyclopédie, mais néanmoins, la censure est omniprésente. La menace est omniprésente. Donc, comment on écrit sous la censure, comment on écrit dans un espace où on sait que on peut être d'un jour à l'autre arrêté par l'arbitraire conduit en prison, et en même temps c'est une posture qui n'est pas héroïque. Il refuse justement la posture.
Il est attaché à son confort. Voilà. C'est un écrivain inséré. D'ailleurs, il va quand même continuer à écrire. Le supplément Voyage de Bougainville, c'est après.
Voilà. Sauf que ça, il va pas le publier. Et c'est aussi pour
ça
que
j'ai dit.
Et en fait, tous les grands textes de Diderot, que ce soit le supplément Voyage de Bougainville, que ce soit Jacques le Fataliste, que ce soit le neveu de Rameau, que ce soit la religieuse, tous les textes qui aujourd'hui font le canon littéraire de Diderot, il ne les a pas publiés de son vivant, ils seront publiés après sa mort. Et donc, il va viser la postérité. C'est une stratégie, plutôt que la figure héroïque de « je pars à l'étranger, je m'enfuis », ou la stratégie de « j'écris pas », de la lâcheté, au fond. Donc, il écrit des textes, il les fait circuler auprès d'un tout petit nombre de Happy Few, et en revanche, il mise sur la postérité. De ce point de vue-là, il a eu raison, puisqu'on le lit toujours.
Et ce qui est aussi intéressant, parce que ce qui nous permet de sortir même aujourd'hui de cette alternative très caricaturale entre d'un côté le compas un peu dramatique pour la vérité, pour la liberté, ou l'image de personnalité publique, d'écrivain, d'artiste qui serait complètement soumis, aveuglé. Là, il permet quand même de penser autre chose, ni la lâcheté, ni le courage aveugle.
Exactement. Il y a plein de manières de résister. Et au fond, peut-être que c'est encore plus courageux de continuer à écrire au cœur de Paris que...
Et puis de rester pour ses enfants, voilà, et sa femme, quand même.
Que de s'enfuir. Hein. Voilà, sa fille et sa femme. Alors, on pourrait dire, c'est toujours la faute des femmes.
Mais
en tout cas, il y a cette manière de penser ce que c'est qu'une figure de l'intellectuel engagé, écrivant dans ces conditions-là, mais en même temps, effectivement, attaché à des réseaux d'amis, de famille, etc.
Alors, Antoine Lilti, vous avez évoqué durant toute cette émission Diderot, l'œuvre qui a transformé votre vie, qui vous accompagne encore. Place à un auteur que vous n'aimez pas, qui vous résiste, que vous n'arrivez pas à lire ou que vous parvenez très bien à lire, mais que vous n'aimez pas. Qui avez-vous choisi? Et vous avez une minute pour le désinguer. c'est pas méchant.
Ah, c'est une question difficile. Mais du coup, j'ai décidé de rester au XVIIIe siècle. Et puisqu'on a parlé de Rousseau tout à l'heure, c'est la Nouvelle Héloïse. Alors, c'est pas tout Rousseau, parce que j'aime beaucoup les confessions ou le discours sur l'origine de l'inégalité ou le contrat social. Mais alors, la Nouvelle Héloïse, Julie ou la Nouvelle Héloïse, qui est le grand roman de Rousseau, publié en 1761, qui est un best-seller extraordinaire pour l'époque.
On a du mal à y croire aujourd'hui.
Oui, ça a fait la célébrité de Rousseau. Il y avait des gens lui écrivaient de toute la France, même de toute l'Europe, pour dire que le livre justement avait changé leur vie, avait vraiment changé leur vie. Eh bien, c'est un livre. Moi aujourd'hui, c'est pas que j'aime pas, c'est vraiment j'ai du mal à le lire. C'est trop.
Oserais-je le mot chiant?
Oui, vous pouvez. Non, mais c'est surtout que c'est tellement sentimental, c'est souvent édifiant, c'est très moralisateur. Et du coup, d'abord, c'est un peu tout l'opposé de ce que j'aime chez Diderot. C'est-à-dire, ce que j'aime chez Diderot, c'est la vivacité, l'humour, le fait qu'on ne sait jamais exactement quelle est la thèse défendue. Avec, dans La Nouvelle Héloïse, c'est un roman qui est un peu écrasé, au contraire, par les thèses de Rousseau. Et puis c'est surtout que je n'arrive pas à comprendre cet enthousiasme qu'a été celui des lecteurs du XVIIIe siècle.
Merci beaucoup Antoine Lilti. De vous, on peut lire L'illusion d'un monde commun, Tahiti et la découverte de l'Europe aux éditions Flammarion. Pour lire le supplément Voyage de Bougainville de Diderot, il y a plein d'éditions possibles. Folio Plus, Garnier Flammarion, Livre de Poche. Un grand merci à Manon Delasselle et Corinne Amar, à Nicolas Berger à la réalisation et à la lecture des textes avec Raphaël Laloum et à Ludovic Augier à la prise de son. Toutes les émissions sont disponibles sur le site et sur l'application Radio France.